et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, une émission dense et éclectique aujourd'hui avec un voyage musical à La Réunion, un manifeste courageux qui alerte le monde, un livre pour enfants sur les racines et les nouvelles littéraires d'un grand artiste français. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kayrad.
Le chanteur Raphaël revient avec un nouveau recueil de nouvelles. Le premier a été couronné par le prix Goncourt de la nouvelle. Avec Une éclipse, Raphaël affine son talent pour ce genre littéraire, un livre fascinant et percutant. L'écrivain algérien Boualem Sansal publie un manifeste adressé aux États du monde et à l'ONU. Il nous incite à réagir face à une civilisation sur le déclin qui nous soumet à des règles inacceptables. Décryptage avec lui en duplex d'Alger. C'est un groupe créole inspiré par le Maloya de la Réunion que nous suivons depuis son premier album. Le deuxième vient de paraître. Trans Kabar est avec nous. Il jouera un titre dans notre studio et illustrera les thèmes de notre programme avec ce moment à ne pas manquer. Et puis coup de projecteur sur un petit livre pour la jeunesse fondé sur l'importance des racines. L'auteur d'origine iranienne Mariam Majidi, prix Goncourt du premier roman en 2017, reste fidèle à son thème de prédilection, l'exil forcé. Et les libraires sont avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront tout au long de cette émission. En Suisse, c'est Yasmina Giaquinto de la librairie du Baobab à Martigny qui est avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous?
Oui, ça va très très bien.
Sous le Baobab?
Sous le Baobab et au soleil, oui.
Au soleil. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel Kayrad.
Vous êtes libraire à Montréal dans la librairie du Square?
Oui, tout à fait.
Avec le temps qui se corse un peu hein, à Montréal, forcément.
Oui,
l'hiver arrive.
Bon, avec... Effectivement, avec octobre, ça s'assombrit, ça se refroidit, voilà.
Bon, bon courage. Enfin, en Belgique, c'est Nathalie Clérin qui est libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine, qui est là. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Mathieu Colombe est en plateau avec nous, c'est le libraire français aujourd'hui. Vous représentez la France, vous êtes libraire dans la librairie Goulard, à Aix-en-Provence. Tout va bien Mathieu, vous avez de nouveaux tatouages ou pas?
Tiens, tout va bien Emmanuel.
Il est très tatoué Mathieu.
On vient de finir celui du bras droit.
On vient de finir un bras.
Voilà, tranquillement.
Vous avez une anecdote de libraire à nous raconter aujourd'hui.
Mais oui, en plus elle est mignonne. Alors ça se passait il y a une quinzaine d'années, mes collègues se plaignaient d'un client qui venait toujours 10 minutes avant la fermeture en rayon BD et qui leur faisait perdre du temps sur l'heure de départ, en ricanant quand il lui signalait que ben, c'était l'heure de fermer. Mmh. Alors évidemment, comptant sur ma diplomatie et mon charme, il me demande de m'en occuper. Bien entendu, très rapide en discussion par sur un champ lexical que je ne vais pas aborder ici.
Oui.
Voilà, ça monte, et ça finit devant dantesque rigolade. D'ailleurs, ça fait 15 ans qu'on est amis, et c'est aussi une très illustration de ce qu'est une librairie. C'est-à-dire que c'est un agora, c'est un lieu de rencontre et aussi de confrontation de points de vue.
Oui, c'est ça. Et c'est comme dans le Sud, en fait. On,
oui.
On s'engueule, hein, comment ça, dire, on va dire le mot,
crie,
et après
on
boit un pastis.
Ouais, on boit pastis. Okay.
C'est ce qui s'est passé.
Exactement.
Bon, avez-vous déjà roulé votre corps entièrement nu sur une plage au coucher du soleil, Mathieu?
Alors oui.
Oui, oui. Bah, comme David Bowie. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Je ne vous poserai pas la question hein, non, de la plage connais, tout nu. Sur cette musique de David Bowie, vous le fan de Bowie, dans votre oui. livre, Bowie est un chien.
Oui, oui. C'est un couple qui se retrouve pour un problème avec Bowie. Alors on se demande quel est le problème avec Bowie. Oui. C'est le jour où on doit euthanasier Bowie. Parce
c'est
que
ça.
C'est un couple qui s'est séparé. Il se retrouve pour la mise à mort du chien, pour le départ du chien.
Alors c'est très drôle, hein, malgré les apparences. Et c'est vrai que l'amant de son ex-femme s'appelle David, lui. Vous avez joué
son hommage. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé du tout, mais
non,
vraiment pas
arrêtez.
Du tout, je vous assure.
C'est vrai?
C'est des choses...
Non, arrête.
Si, 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 c'est, des... c'est vrai, ça fait de la vie.
C'est vrai?
Ouais, c'est vrai.
Vous avez pas fait gaffe?
Non, je crois pas.
Bon. Bon, Raphaël, vous publiez votre deuxième recueil de nouvelles, Une éclipse chez Gallimard. 12 histoires très différentes les unes des autres, même s'il y a parfois des liens entre elles. L'éclipse, c'est dans votre livre une éclipse amoureuse, donc, avec cet homme qui sent les choses venir.
Oui.
Quand elle lui dit qu'elle a besoin d'espace, il sait un peu ce qui va se passer, quoi.
Oui. Le narrateur, sa femme est en train de le quitter. Comme il n'a pas envie de voir ça, il s'aveugle et ça tombe le jour d'une éclipse, donc il préfère se brûler la cornée plutôt que de...
Pourtant, il a continué à l'aimer. Il a choisi de continuer de l'aimer. C'est possible ça, malgré la trahison?
Ouais, bien sûr, je pense
de continuer
bien sûr,
à aimer.
Bien sûr, bah oui, enfin, évidemment.
Ah
pense,
oui?
Oui, je pense, bien sûr, je pense que...
Même quand on est trompé,
aimer,
même quand
oui,
on est séparé?
Bah oui, je pense qu'on peut aimer à distance, je pense qu'on peut aimer... Oui, je suis sûr même. Je pense que les samouraïs devaient faire ça, ou je sais pas quoi, mais il faut un certain contrôle sur soi, mais je crois que c'est tout à fait possible.
Ouais, ça pouvait vite déraper chez les
samouraïs. J'ai lu un livre de Mishima sur les samouraïs, le code du samouraï, un genre d'interprétation du Bushido, et je l'ai donné à mon fils, et vraiment, c'est une lecture très radicale, quoi.
C'est bien pour, il a quel âge?
Maintenant. Il a 13 ans. Ouais. Il aime beaucoup le karaté.
Ça va. Ouais. Bon, des éclipses, on en vit tous les plus graves, comme cet enfant victime d'un monstre pédophile qui effacera ce moment de sa mémoire pour se concentrer sur les étoiles et les ovnis, ou la découverte d'un mort aussi dans sa salle de bain. On va pas raconter comment ça se produit, mais c'est ce qui se passe. Les séparations aussi, ou une simple rencontre. Ces éclipses, elles ne sont pas juste de passage, Raphaël. Elles laissent des traces. Elles bouleversent nos vies aussi.
Tous les personnages sont un peu perdus dans leur vie, et ils ont une tentation du mystère, ils regardent un peu vers le ciel, alors il y en a un qui regarde une éclipse, l'autre qui a la sensation d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Ils ont une espèce de tentation du mystère, mais le ciel reste assez muet, dans ce livre en tout cas.
C'est-à-dire,
ils obtiennent pas de réponse, quoi, en tout cas. Ils sont, l'essentiel, le fil directeur de ce livre, c'est un livre qui parle du couple, c'est quand même.
Oui, c'est ça, surtout.
Cinq nouvelles qui se suivent ou qui se correspondent avec le même personnage.
Ou la relation à l'autre aussi.
Oui, c'est une histoire d'amour, et puis, avec un mec un peu flottant.
C'est qui le mec flottant? C'est vous?
Le personnage? Non, non. C'est en partie, moi. Oui. C'est fait avec des lambeaux du réel, mais en même temps, c'est beaucoup d'imagination. Sinon, c'est de l'autofiction. On en est très très loin, heureusement.
Et j'espère, oui. Mais parce qu'il y a une histoire qui frôle le polar, comme ça, avec un sadique qui rôde dans une campagne et un enfant qui va voir son parrain avec sa mère dans un taxi, a priori sympathique. Il y a des sacrées idées, histoires qui rôdent dans votre tête, vous, hein, Raphaël?
Ouais, j'ai l'impression que il y a une dernière nouvelle à la fin qui fait un peu la circulation,
qui réunit tout le monde,
et qui raconte un peu la manière dont les nouvelles se fabriquent, sur ce que je vous disais, sur les lambeaux du réel, sur une petite chose comme ça qui fait peur, qu'on laisse cristalliser, et en même temps, évidemment, on utilise la vie des gens, le réel des gens, et ils peuvent vous réclamer leur dû à un moment donné.
Ouais. Mais elles viennent d'où ces histoires, Raphaël? Parce que c'est vrai que l'histoire du sadique,
c'est un voyage en taxi avec un chauffeur de taxi charmant, et puis un orage, et puis on imagine,
bon, racontez pas tout, mais
c'est la manière dont l'imagination dévie, comme ça, c'est...
Ah, ça part comme ça, au départ, avec une balade?
Ouais, c'est ça.
Et ça dérape?
Dans ma tête, ça dérape souvent.
Vous aimez les mystères, en tout cas, les nappes de brouillard.
Ouais.
Même dans vos chansons, on retrouve ces mystères mêlés d'inquiétude et surtout d'incertitude, je dirais. Dans peut-être, dans le train du soir, dans 150 ans ou le bar de l'hôtel, il y a cette notion d'incertitude.
Ouais, je trouve que l'incertitude, c'est presque un principe... Il n'y a rien de plus passionnant dans les œuvres d'art, même justement la vérité romanesque, je crois que c'est Kundera qui disait ça, la vérité romanesque, elle vient de cette incertitude, c'est des personnages qui sont toujours dans une zone grise, ou souvent dans une zone grise, qui se confrontent, qui sont en désaccord, et de ces différentes voix naît quelque chose qui ressemble à une vérité qui n'appartient qu'au roman, ou peut-être à une chanson, mais en tout cas qu'on peut pas avoir dans, je sais pas, dans un essai, ou dans un... où on donne vraiment un point de vue. Alors là, il n'y a pas de point de vue. La vérité, elle, si tant est qu'il y a une vérité, il y a une espèce de monde autonome qui... Enfin, ma phrase est trop longue.
Non, allez-y, je vous en prie.
Ouais. Enfin, voilà, c'est ça. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement l'incertitude.
Ouais.
Et puis, moi, j'ai aucune certitude sur rien. Souvent, je regarde la télé, je me dis, ah ouais, putain, il a raison. Puis, deux minutes après, il y a un mec qui dit exactement l'inverse. Je dis, ouais, bah, lui aussi, il a raison. Tu vois, et puis même, je sais pas, tous les ans, il y a un mec qui a le prix Nobel d'économie, il traîne le mec de l'année précédente dans la boue en disant, ce mec n'a rien compris. C'est pas du tout comme ça que marche l'économie. Donc, on nage dans l'incertitude.
Qui a fait les océans et les cœurs brûlés? La colonne et le cou ne cessent de marcher. Est-ce que tout peut pourrir même ce qui a de plus doux? On nous jette des fleurs ou bien des cailloux. Est-ce mon squelette au bar de l'hôtel? Est-ce ma toilette faite au scalpel? Est-ce mon souvenir aux enchères? Et cette détresse que je paye si cher?
Il écoute attentivement cette chanson,
oui,
Raphaël.
Non, elle sonne bien.
Elle est magnifique, cette chanson. Moi, j'arrive pas à la couper, hein, donc.
Et vous avez raison, c'est connecté aux nouvelles, quoi. Ça parle de la même chose.
Ça c'est ça.
L'amour et la mort, quoi. Il y a quelque chose d'un peu. Oui, c'est vrai.
L'incertitude dans la solitude. C'est un peu ça, le bar de l'hôtel.
Un peu. Il y a un truc un peu morbide, comme ça, le squelette dans le bar de l'hôtel, la toilette au scalpel. Il y a quelque chose quand même un peu glaçant, comme ça, mais en même temps, c'est une chanson d'amour, oui.
Bon, dans la dernière nouvelle, effectivement, vous imaginez un dialogue avec des malades d'un hôpital de jour. Des malades un peu barrés. Et vous leur dites que l'inspiration, c'est un peu comme du cristal. Un écrin fragile. Mmh. Ça peut se briser à tout moment.
Oui.
Donc la nouvelle, elle peut déraper dans le mauvais sens à tout moment aussi. C'est-à-dire que si l'inspiration s'arrête, il n'y a plus d'écriture.
Oui. Ce qui m'amusait beaucoup dans cette nouvelle, c'était l'idée de que les gens sachent exactement où vous avez puisé vos histoires, parce que même là, évidemment, on raconte des trucs, mais on multiplie les paravents, qu'ils sachent non seulement où j'ai puisé les histoires, mais même qui étaient ces personnages, voire même ce que j'ai rêvé ou comment je vais mourir, voilà, qu'ils soient vraiment omniscients. Et c'était assez magique et assez marrant comme.
Ils vous posent toutes des questions sur le livre,
oui,
qu'ils sont censés avoir lu.
Oui.
Et puis ils savent plein de choses sur vous improbables, et parfois ils ont des questions absurdes.
Oui.
Ouais. Et Benjamin Biolay alors?
Où il habite? Je sais pas. Maintenant, je sais. Depuis que j'ai croisé, je lui ai demandé.
Il est mieux que vous, Raphaël, Benjamin Biolay?
Oui, il est bien, il est super. Moi, j'aime beaucoup. Il a une belle voix et il est cool.
J'extrapole, hein, je continue. Hein. Ah ouais, ça peut aller loin comme ça, ce dialogue. Vous confiez lire une dizaine de livres par an, c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Vous allez en librairie indépendante, j'espère?
Je vais en librairie indépendante et j'ai lu un livre qui m'a fasciné il n'y a pas longtemps, qui est Feu, de Maria Pourchet, que j'ai adoré.
Très
c'est
bien.
Un livre rock formidable. Quoi.
On va vous prendre comme libraire, tiens. Allez, on va laisser la parole au Canada et à la Suisse qui ont lu votre ouvrage, Raphaël. On commence par le Canada, ça vous va?
Oui.
Allez, Josiane Letourneau.
Eh bien, Raphaël Laroche, à chaque nouvelle, j'ai eu la sensation de recueillir un instant de vulnérabilité, d'être la témoin privilégiée d'un point de bascule. J'ai été soufflée, littéralement, par la cruauté, l'inhumanité qui sévissent parfois sans avertissement dans votre univers. J'ai manqué de souffle, en fait, j'ai retenu mon souffle. Mais vraiment, je suis extrêmement impressionnée par votre maîtrise de la forme et par la charge d'atmosphère qui habite votre écriture. En un mot, comme on dit chez nous, aïe aïe.
Ah, et la traduction pour les autres francophones?
Aïe aïe, c'est quelque chose.
Ouais, très bien.
C'est quelque chose.
Oh là là, c'est génial, c'est ça?
Ouais. Oui, mais aïe aïe, ça fait un peu mal aussi.
Ouais.
Allez, la Suisse, Yasmina Giacinto.
Oui, moi j'ai d'abord envie de vous dire mon plaisir de lire des nouvelles en fait à la française, étant donné que c'est plutôt un genre utilisé chez les anglo-saxons.
Oui.
Et puis vous savez, Raphaël Laroche, j'ai eu la sensation de lire ces textes comme on prend un train en route. On est tout de suite embarqué, immergé dans la part d'ombre de ces anti-héros que vous nous racontez. Et puis vous prouvez qu'écrire, en fait, c'est pas forcément tout dire. Parce que vous êtes capable de dire seulement certains petits détails de la vie et on les comprend dans leur moindre subtilité.
Voilà, vous avez séduit nos libraires.
C'est trop gentil.
Raphaël
Laroche,
c'est vrai que...
Rougir. Merci, c'est très gentil.
Vous êtes Raphaël Laroche en tant qu'auteur, je dis Raphaël, mais voilà, Raphaël Laroche, une éclipse chez Gallimard. Vous jouez au tennis, Raphaël?
Oui.
Alors, parce qu'il y a une nouvelle très juste sur le monde du tennis, avec un personnage suivi par un coach destiné à une brillante carrière, qui sera au final classé 850e à l'ATP.
Ouais, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, oui, Irma. Vous manquez de la Fédération Internationale qui prévoit tout dans les règles. Mmh. Et c'est vrai qu'ils font ça en plus, ils imaginent tout ce qui est possible.
Oui, c'est vrai, je me suis amusé comme ça. Quand j'étais petit, je voulais être joueur de tennis, mais vraiment, je pouvais pas, déjà j'étais pas très bon, et en plus les joueurs de tennis aujourd'hui ils font tous au moins 1m90, 1m95, ouais. On en parlait tout à l'heure.
Ouais.
Mais du coup, moi j'étais vraiment rase-motte, c'était pas possible. Quoi.
Ouais, Agassi était petit. Ouais, hein.
Agassi était petit.
Et, il y en a d'autres.
Et j'ai croisé beaucoup de joueurs qui vivent leur rêve brisé comme ça. Et après j'ai pris les règlements un peu de la fédération de tennis, et le joueur il est un peu autiste comme ça, il a besoin d'être assuré de règlements, donc il les suit à la lettre.
Oui. Vous décrivez ce que tout joueur de tennis apprend à contrôler, c'est la prise de décision.
Oui.
Le mental doit être infaillible pour faire bouger le corps, et c'est vrai ça. Sinon, au tennis on ne change jamais d'avis.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Si on trompe la chaîne musculaire au dernier moment, c'est foutu.
Ouais.
Oui, le cerveau ne comprend plus les informations.
C'est toute l'histoire du personnage.
C'est un peu l'histoire du personnage, oui.
Vous écrivez, le tennis est un monde parfait où tous les accidents possibles du cosmos ont été prévus.
C'est presque un sport aseptisé pour vous ?
Oh non, mais c'est vrai, il y a des règlements, donc vraiment, il y a des choses dans les règlements, vraiment, ils disent qu'on n'a pas le droit de mettre des moteurs dans le manche de la raquette, alors on imagine à la suite de quoi ce genre de règlement était pris, c'est-à-dire un mec vraiment désespéré qui est dans un match de troisième série, qui met un moteur dans le manche de sa raquette, qui se fait gauler, c'est...
On n'a pas le droit de jeter sa raquette en même temps que la balle non plus.
Non, c'est lâche. Et c'est totalement...
Non mais c'est vrai, c'est dans le règlement.
Oui, ouais, c'est vrai.
Et on n'a pas le droit de passer le filet, d'aller de l'autre côté.
Oui.
Du côté du joueur adversaire. Oui. Je ne sais pas pourquoi on dirait faire ça, mais c'est interdit.
J'imagine qu'ils disent aussi, vous n'avez pas le droit de cracher sur l'adversaire au moment où vous volayez en face de lui. Il doit y avoir des tas de trucs comme ça, mais c'est très marrant.
Vous avez reniflé des balles neuves, comme dans la nouvelle ?
Ah, j'aime l'odeur des balles neuves, j'adore l'odeur des balles neuves.
Vous avez une marque préférée, vous ?
J'aime bien les Penn, qui sont très jaunes, comme ça. Oui. J'aime bien les Slazenger, parce qu'elles me font penser à Wimbledon.
Ouais. Et les Wilson, moi j'aimais bien les Wilson.
Les Wilson, c'est pas mal aussi, c'est vrai. C'est vrai.
Ouais. On a l'air fou comme ça, mais c'est pas le cas.
C'est
des tubes de balles pour ceux qui connaissent pas, avec 4 balles à l'intérieur et avec un décapsule, une capsule en fait, parce qu'elles sont sous vide, sous pression, et ça dégage une odeur particulière. Bon, vous essayerez, hein, si ça vous tente. Merci Raphaël,
merci beaucoup.
Vous allez rester avec nous
avec plaisir.
Tout au long de l'émission. Votre nouveau recueil de nouvelles, Une Éclipse, est paru chez Gallimard. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas lu des nouvelles de cette qualité, efficace et intelligente. C'est le recueil de nouvelles à lire en ce moment. Merci Raphaël.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure. À suivre le brûlot de Boualem-Sansal, un manifeste très engagé et courageux qui nous alerte et nous incite à la révolte face à la soumission. Avant cela, voici un jeune chanteur, une découverte nommée Raphaël, je crois, avec un extrait de son dernier album en date dans la librairie francophone. Vous connaissez ce chanteur ?
Oui.
Oui, allons-y.
Maquillage bleu sur tes yeux, tu ressembles. Sur terre, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Porte opposée, vérifiée, ceinture attachée. On rêvait du cosmos, on rêvait de prise. On a eu Twitter, Victoria Beckham.
C'était Raphaël avec Maquillage bleu.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et on part à Alger rejoindre Boualem-Sansal qui publie un manifeste adressé aux États du monde et à l'ONU. Bonjour Boualem-Sansal.
Bonjour Emmanuel.
Lettre d'amitié, de respect et de mise en garde aux peuples et aux nations de la Terre, c'est le long titre de votre ouvrage adressé au secrétaire général des Nations Unies. Vous lui avez vraiment envoyé ce manifeste ?
Oui, tout à fait.
Et alors ?
Il est parti, oui.
Vous avez un retour ?
J'attends la réponse.
C'est ça.
Pas encore. mais s'il ne me répond pas, je le relancerai par une autre lettre.
Mais parce que vous imaginez dans le livre qu'il ne va rien se passer, car l'ONU, je cite, « brasse du vent ».
Je pense qu'ils vont accuser réception, parce que c'est quand même une organisation sérieuse et qui est très administrative. Donc ils vont accuser réception de cette lettre, ils vont m'écrire. Mais moi, j'attends un peu plus. J'attends éventuellement qu'on m'invite et qu'on discute de ces propositions et qu'on en fasse une affaire un peu mondiale. Quoi. Ouais. C'est une grande ambition. Hein,
bien sûr.
Parce que mon projet, c'est quand même d'aboutir à l'écriture d'une constitution mondiale.
Oui, nouvelle constitution universelle, en fait. Et vous êtes très inquiet, en fait, du résultat, parce que vous dites que si je publie cette missive, les médias pourraient s'en faire les relais. Sauf que vous dites que les médias ne sont plus ce qu'ils étaient.
Et ça vous surprend ?
Non, non, mais je vous laisse réagir. Vous imaginez ma place, du coup.
Écoutez, moi, pour moi, la presse est une institution qui organise des débats. Mmh. Mais les débats, apparemment, aujourd'hui, sont quasiment sous contrôle, pour ne pas dire qu'ils sont interdits. Donc on est obligé de réciter, chacun vient réciter son bréviaire, ou alors monologuer, ça ne fait pas débat. Il y a plein de sujets, par exemple, qui méritent des débats, mais d'une profondeur extraordinaire et sur une longue durée, qu'on n'aborde jamais, ou à peine. Par exemple, la question de l'islam.
Ouais.
C'est, l'islam, tout le monde en parle en chuchotant, le monde entier.
Ouais, enfin, il y a beaucoup de débats en France sur le sujet en ce moment,
non,
pour le coup.
Il n'y a pas de débat sur l'islam, pas du tout. Il y a beaucoup de débats sur l'islamisme, oui.
Oui. Vous parlez de l'islam politique, vous.
Voilà.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est autre chose. Alors, on va y venir, hein. L'islam politique, on va y venir parce que c'est un volet de votre chapitre et il y a effectivement une polémique autour de ça aujourd'hui. Vous évoquez surtout dans ce livre les destructeurs, Boualem Sansal, ceux qui ont déconstruit nos libertés individuelles et notre humanité. Il y a donc, selon vous, les partis politiques, les syndicats agréés, les multinationales, les médias, les GAFA, les religions, tout ce qu'il y a dans nos sociétés. Le problème, c'est que celui qui a tiré la balle fatale, comme vous dites, n'est pas identifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pointer une personne ou un organisme comme responsable principal.
Vous savez, la responsabilité, c'est un phénomène concentrique. Quand on reçoit un coup, quand on est agressé, on cherche des coupables dans son environnement immédiat. Le voisin, les parents, les amis, etc. Dans une deuxième étape, on va chercher plus loin, on va dire. S'il y a des violences, c'est parce que la loi est mal faite, parce que l'État fonctionne mal, parce que l'administration est bureaucratisée, enfin bref, on trouve des responsables au deuxième niveau. On n'arrive pas au bout, on est obligé de chercher plus loin. Alors on va accuser l'État, l'ordre mondial, etc. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et j'identifie un certain nombre de destructeurs suprême,
oui.
Qui donc utilise les États, les syndicats, les associations, les journaux et les individus eux-mêmes qui sont évidemment embrigadés dans la machine.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est l'agglomération de tout ça. Vous répertoriez quatre destructeurs qui totalisent, selon vous, 90% de la mortalité humaine. L'argent, évidemment, la religion, les fast-foods et les jeux d'arène. Les fast-foods, Boualem Sansal.
Vous savez, on creuse sa tombe avec ses dents, on dit cela. Hein.
Oui,
l'industrie alimentaire est une machine de guerre contre les humains. On empoisonne les gens, pas volontairement, certainement, mais par les principes même de la production de masse. Pour nourrir tout le monde, on est obligé de faire le plus mauvais possible. Sinon, on ne peut nourrir que les élites, ceux qui peuvent manger bio à leur faim, et voilà.
Mais c'est-à-dire, Boualem, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un assassinat organisé?
Oui, absolument.
D'accord.
Absolument. Si on veut nourrir tout le monde, on est obligé de produire du bas de gamme, le fast-food, des trucs vite bricolés, sans valeur nutritive sérieuse. Et pour que cette nourriture puisse circuler, elle est bourrée de médicaments, de conservateurs, de produits chimiques divers et variés. Le goût est artificiel, tout est artificiel. La couleur est artificielle. Et donc, c'est un empoisonnement, on empoisonne. Dans mon livre, je rappelle le film de Claude Zidi,
oui.
La cuisse ou
l'aile. Ou la cuisse.
Voilà.
Oui.
Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas. Mais la production de masse implique que l'on abaisse les normes de production.
Voilà, ouais, vous écrivez, la présence massive du fast-food dans un pays est le signe que sa civilisation est en train de s'effondrer. Et ça, ça fait partie des destructeurs de la civilisation. Et vous dites, il faut s'opposer à ça. Donc l'alimentaire, évidemment, on pense à l'écologie, on pense à la condition animale, on pense à plein de choses. La religion aussi, on va y venir avec l'islam. On va laisser la parole à nos libraires tout de suite, Boualem Sansal, qui ont lu votre manifeste. Et on va commencer avec la France, avec Mathieu Colombe, qui a quelque chose à dire sur ce livre.
Bah oui, et d'ailleurs, moi, j'adhère complètement à la... Je suis acquis à Boualem Sansal, en fait, même si j'ai trouvé la première partie un petit peu déroutante. Pour moi, la deuxième coule de source. Alors évidemment, on va considérer que certaines de ses thèses vont être utopiques ou même fantasques, mais je pense que les mots de la fin savent ramener vers la réalité.
Alors, effectivement, la première partie, c'est comment la France s'est appropriée l'Algérie de façon très ludique, hein, d'ailleurs, et très lucide. Boualem Sansal, vous rappelez la colonisation avec une version assez étonnante sur la longueur, mais qui est très intéressante aussi. La Belgique, avec Nathalie Clairin, qu'en pensez-vous ?
Oui, Monsieur Sansal, même si ce n'est pas la question ici, donc je trouve d'abord que vous écrivez très bien. Alors, je n'ai pas eu les douleurs que vous connaissez en tant qu'Algérien, mais votre tristesse et votre colère me gagnent. Alors, votre manifeste, moi je trouve qu'il faut le lire, il faut le diffuser. Et je voudrais vous dire deux choses. Tout d'abord, c'est merci de votre courage à oser témoigner. Et d'autre part, que votre écrit ne fait que m'encourager à me demander chaque jour, mais... qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, dans le sens de l'empathie et surtout de la solidarité.
Voilà, vous avez convaincu nos libraires, Boualem Sansal.
Eh bien, écoutez, là, vous utilisez la dernière phrase de mon texte où je me pose la question, que va faire le secrétaire général et que vont faire les lecteurs ? Mais c'est essentiel que chacun réagisse, enfin, je ne parle pas de réaction par rapport à mon texte, mais une réaction par rapport à ce qui se passe dans ce monde qui court à sa perte. Or, on est là, on alimente la machine de guerre. Et à un moment donné, il faut rétro-pédaler et militer pour la paix ici et maintenant et partout.
Oui. Alors vous attaquez frontalement l'islam politique, qui est selon vous la chose la plus dangereuse du monde pour au moins les deux siècles à venir. Et vous dites que chaque religion a eu ses heures de gloire, entendez par là les massacres à grande échelle. Aujourd'hui c'est l'islam. Vous comprenez du coup que des personnalités d'extrême droite en France ne cessent de vous citer en exemple là ? Qu'est-ce que ça vous inspire ça ? C'est la façon dont vous êtes cité partout dans ces pseudo-débats comme vous dites.
Mais moi, généralement, je suis un scientifique et donc je suis plutôt précis dans ma façon de d'écrire, de parler. Moi, je parle de l'islamisme. C'est une doctrine qui est née en même temps que l'islam, qui est une doctrine totalitaire, une idéologie totalitaire, qui se revendique en tant que telle. Hein. C'est imposer une lecture de l'islam à l'ensemble de l'humanité. Et l'humanité qui refuserait d'adhérer à cet enseignement mérite d'être détruite au nom d'Allah. Moi, je ne parle pas de l'islam, je parle de l'islamisme. Alors, les gens me confondent. Mais c'est vrai qu'il y a une parenté, c'est que l'islamisme s'appuie sur l'islam pour se booster, pour se crédibiliser, pour se donner de la force. Mais je n'y peux rien si les gens comprennent mal mes textes et me citent, je n'y peux rien. Je ne peux pas faire des procès à tout le monde.
Oui, mais ce que vous dites, effectivement, ils le reprennent, là, ce que vous dites. Sauf qu'après, ils l'extrapolent. Ils le placent dans la société française, par exemple. Et donc, part sur les banlieues, ça part sur les musulmans de France. Mais ce que vous dites,
France,
c'est ce qu'ils disent.
En France. Oui. En France, on a... Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un contre-discours. Il y a un discours, évidemment, contre l'islamisme, contre l'immigration, contre plein de choses. C'est le discours de l'extrême droite. Mais il y a un contre-discours qui est aussi violent et aussi dangereux. C'est de chercher à effacer les réalités. C'est de chercher à obliger les gens à faire comme l'autruche, mettre la tête sous le sable. Moi, je vis en Algérie. Tout à l'heure, madame qui est libraire à Bruxelles a dit que j'étais courageux. Mais pas du tout, en Algérie non. Parce que, ben, voilà, je vis en Algérie, je parle de ces choses-là à longueur de journée, je ne suis pas inquiété. Je ne suis pas inquiété pour ça. Je suis inquiété quand je m'oppose au régime. Oui. Quand je m'oppose au régime, quand j'appelle à la démocratie, quand j'appelle à faire tomber ce régime, cette dictature.
Oui, vous le faites dans le livre, hein, d'ailleurs. Vous le faites dans le livre.
Mais jamais.
Vous vous interrogez d'ailleurs dans le livre. Hein. Vous dites qu'en écrivant ce manifeste, ça va vous attirer plein de problèmes. Alors effectivement, on se pose des questions pour votre sécurité, Boualem Sansal, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes protégé, par exemple ? Comment vous voyez les choses ? Parce que vous pourriez mettre votre vie en danger avec ces textes-là.
Mais écoutez, moi je me protège moi-même, sachant que on est vulnérable, tout être humain est vulnérable, et susceptible, y compris le président de la République, y compris... voilà, à tous les niveaux, nous sommes vulnérables à la merci d'un coup de couteau par-ci, d'une attaque par-là. Non, il ne faut pas en faire un problème.
D'accord.
Voilà, il ne faut pas en faire un problème. Je me sens en danger, mais serein face au danger.
Bon, vous écrivez, on va terminer avec cela. Il est étonnant que les hommes n'aient pas vu la solution. Elle crève les yeux. Elle est dans la rupture ontologique. Elle est dans la sortie de l'âge des religions et des dieux et dans l'entrée dans l'âge de l'homme et des étoiles. Tout est dit là, Boilhem.
Oui, ben voilà, il faut nous assumer en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que collectif, responsable de tout ce que nous, voilà, de ce que nous faisons.
Non.
Et ne plus compter sur Dieu, sur le diable, sur je ne sais quoi, sur des gourous, sur des... La vie, c'est lorsque l'homme se prend en charge lui-même.
Ouais.
Sinon, c'est la non-vie. Alors, on est soumis à des forces qui nous dépassent, qui nous agissent, et en tant qu'humain, nous disparaissons.
Bon, on a entendu votre message. Merci beaucoup, Boilhem Sansal. Vous proposez donc
Emmanuel.
Je vous en prie, une nouvelle constitution universelle, donc à lire, à découvrir donc dans ce livre pour changer le monde et changer nos vies. Lettre d'amitié, de respect, de mise en garde au peuple et aux nations de la Terre. Merci d'avoir choisi la librairie francophone pour parler de votre ouvrage, Boilhem. Merci pour votre fidélité.
Merci, Emmanuel. Au revoir.
À très bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Le groupe Transcabar est en train de s'installer dans notre studio. Vous allez vivre un moment sublime dans quelques instants. Juste avant la première partie de la chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec un coup de gueule. Tiens, on continue avec les coups de gueule en Suisse. Yasmina Giaquinto.
Oui, un coup de gueule parce que les éditeurs font des choix pour la couverture d'un livre ou d'une nouvelle charte graphique sans penser à venir voir en librairie. Parce que les libraires, ben on est les premiers à être capables de se prononcer sur combien une couverture de livre peut avoir un impact sur un achat. Et si vous saviez comme il est frustrant de se retrouver à devoir convaincre un lecteur du génialissime roman que je viens de lire, alors que lui, en fait, il ne voit que sa couverture, qui n'est pas forcément très engageante.
Oui, c'est vrai. Il y a une belle photo de Raphaël sur son livre. Elle est belle, en fait, cette photo.
Elle est bien.
Elle est bien. Bon, c'est noté, Yasmina. Allez, un coup de cœur au Canada, Josiane.
Oui, sur La seule chose qui intéresse tout le monde de François Blais aux éditions L'Instant Même. Bon, je suis un peu vendue à François Blais, j'aime son humour, son univers, mais dans ce cas-ci, c'est un univers qui prend une direction surprenante en science-fiction, uchronie, géopolitique, intelligence artificielle. Dès les premières pages, on est dans un univers qui est un peu obscur, mais il éclaire notre lanterne. Il nous révèle comment ce qu'il met en scène pourrait être une extension de notre monde. Et bon, la conscience des machines, c'est pas une question rare en fiction ni au cinéma, mais François Blais a le chic d'aborder la chose à sa manière.
La seule chose qui intéresse tout le monde aux éditions L'Instant Même. Merci Josiane. Le groupe Transcabar est donc installé dans notre studio pour un titre acoustique inspiré et habité par la culture de la Réunion. Le groupe porte un héritage et toute la tradition du Maloya, incarné notamment par le grand Daniel Warraud, qui est l'oncle de Jean-Didier Warraud, l'un des membres du groupe qui est dans notre studio face à son micro, installé, assis sur une percussion. Ça va? Tout va bien pour vous?
Super.
Tout va super. Alors, on y va. C'est parti. Voici un extrait du nouvel album de Transcabar dans la librairie francophone.
Thank you.
C'est Transcabar avec Viens dans la librairie francophone. Magnifique titre qui illustre parfaitement ce qu'on disait avec Boilem Sansal tout à l'heure, avec Raphaël aussi. Raphaël, votre impression avec ce, ce titre,
c'est magnifique.
Dans notre studio qui nous a emporté.
Ça me fait un peu penser à ce Alan Peters. Il y a chose de blues, Jimi Hendrix à la guitare et en même temps c'est le Maloya, c'est trop beau, c'est magnifique, j'adore.
Bon, merci pour ce cadeau. Dans les conditions du direct, installez-vous le temps de cette virgule, comme on dit.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Bonjour Jean-Didier Waraud.
Bonjour
Stéphane Waraud.
Bonjour.
Bonjour Théo Girard.
Bonjour.
Transcabar, c'est l'association de deux idées fortes, la transversalité avec le croisement des cultures et le cabar, fête traditionnelle de la Réunion, rythmée par le maloya et aussi la cuisine locale au passage. Et on va vivre ce moment ensemble, essayez de nous faire rêver, tiens, de nous faire voyager. Comment ça se passe une fête comme ça? Imaginez que vous y êtes là. Comment vous pourriez décrire ça?
Ah ben là, je ferme les yeux tout de suite, on entend le rouleur, la percussion de la Réunion avec le
caillom, le sati. Vous aviez là, ce que vous avez juste là,
ouais. Voilà, le caillom, le sati, c'est un genre de hochet, et puis les petites baguettes, voilà. Ouais. Et puis ça chante, ça danse. Le parfum aussi de la cuisine, le parfum, les gens, la mer à côté.
C'est ça, à Saint-Pierre par exemple.
Ouais, hein. Un cabaret, voilà.
Bon, Raphaël avait raison, effectivement, il y a un côté rock. Et c'est ça votre nouvel album. On retrouve toutes les sonorités de la musique du Maloya avec des sons plus actuels, presque rock, mais vous rendez pleinement hommage au Maloya. Vous êtes le neveu, donc je le disais, de Daniel Waraud, il est fier de vous, non?
Bah ouais, tonton, envoyé quoi.
Tonton, si tu nous écoutes, il écoute, hein, je sais, la librairie.
D'accord.
Ouais, parfois.
Salut tonton.
Stéphane Waraud, ça vous fait marrer.
Bah oui. Salut tonton.
Il y a un côté familial hein, dans ce groupe.
Bah oui, bah c'est ça qui est super en fait.
Ouais.
C'est pour ça que l'histoire elle est chouette.
Ouais.
Les gens s'entendent bien et puis on rigole bien ensemble. Donc voilà, l'histoire se poursuit quoi.
Alors c'est Jean-Marie-Gustave Leclésio qui m'a présenté et fait connaître Daniel Waraud un jour. Et il y a une incarnation proche de la transe, car le maloya peut parfois mener à la transe. Théo Girard.
Oui, certainement, oui. Donc moi, je suis un peu une pièce rapportée, mais il me mène tous les jours, concert après concert, disque après disque, jusqu'à cette transe, ouais.
Vous l'avez vécu, cette transe-là, parfois, sur scène?
Ah ouais, carrément.
Ah oui.
C'est-à-dire que le premier à rentrer, c'est Jean Didier en transe, très clairement. Et après, on a juste à suivre. Hein. C'est la ligne est tracée, la route est tracée, quoi. Ouais, ouais.
Les portes sont ouvertes.
Ouais, ouais. Ça fait penser un petit peu à la musique gnawa du Maroc, hein, la transe. Avec... C'est vrai, ça se rapproche, le maloya, non?
Ouais, puis c'est le même accent aussi. C'est le même accent, enfin l'accent sur la deuxième croche. Là, il y a dans le monde, il y a pas mal de liens
avec cette transe-là, là. Ouais. Avec cet accent en haut.
C'est une musique qui vous intéresse, Raphaël, vous, la musique de l'outre-mer notamment.
J'adore. Moi, j'avais découvert quand j'avais fait des concerts à la Réunion, Alain Peters, et j'avais été fasciné par des titres. Là, vous connaissez cette chanson Kaloubadia, là, par exemple. Puis c'était le son. C'est vraiment, ça me faisait penser à Jimi Hendrix. Quoi, il y a quelque chose de, mais vraiment fumé, très profond. Quoi, c'est vrai que tout de suite, c'est très très puissant. Quoi.
Et c'est une musique instantanée en fait, qui vit, qui s'accompagne sur scène. C'est un peu ça, JD.
Voilà.
C'est-à-dire que le Maloya, votre musique, elle naît sur scène et quand vous enregistrez un album, vous le bouclez en une semaine. Il faut que ça aille vite, dans les conditions du direct quasiment.
Direct, voilà, on l'enregistre en live. Voilà, on fait partir les morceaux et puis on part l'aventure dessus.
Alors là, on l'a ressenti en studio. Parce que c'est vrai que ça dégage quelque chose de très particulier. Alors, c'est vrai que l'énergie du spectacle vivant, on en a été éloigné ces derniers mois en raison de la crise sanitaire. C'est l'énergie du moment, comme ça, la relation avec le public qui semble diriger votre musique. Vous me regardiez pendant que vous chantiez, par exemple.
Voilà, on va choper des regards, un petit pas de danse, quelqu'un qui est peut-être assis, qui ne bouge pas, ça, voilà, on va essayer de, dans la voix, de l'amener au public, voilà.
Raphaël fait ça sur scène aussi, parfois. le contact, la communion avec le public. Je vous ai vu faire ça.
Bien, moi, j'aime bien même parler au milieu d'une chanson, de, je sais pas, dire un truc.
Oui, vous racontez votre vie,
super.
Parfois.
Ouais, j'aime bien.
Enfin, des histoires.
Dans la musique, j'aime bien parler à l'intérieur. Ouais. Mais c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Et puis vous avez une très belle voix, c'est super.
Le Maloya qui était mal vu et même interdit par les autorités françaises dans les années 50. On disait que c'était de la sorcellerie.
Voilà, on mettait ça du côté, c'est la musique noire, c'est pas de la musique. Voilà. Il y a eu la censure et l'autocensure aussi. Parce que même dans notre propre famille, on disait non, mais chante pas le Maloya, c'est pas une musique.
Ah oui, ça allait jusque là.
Voilà, ça allait jusque là. Le créole, c'est pas bien de le parler. Ouais. Voilà, vaut mieux que tu parles le français.
Ouais. Ça, mais c'était le cas aux Antilles aussi.
Voilà, on avait ça aussi dans la famille. Et beaucoup d'autocensure, plus que la censure qui était là, parce que on bravait la censure. Les chants, ils étaient présents, les grands mondes, les anciens, ils ont tenu la cabane, quoi.
Bon, continuez comme ça, en tout cas, c'est la revanche du coup maintenant, parce que ça marche bien, et vous avez un grand succès international. Merci beaucoup Transcabar. Mazine, La Mort, votre nouvel album est sorti en CD chez Disco Ball, et sur les plateformes évidemment d'écoute en ligne. Vous serez en concert à Paris, pour ceux qui habitent en France, et pas loin de Paris pour le coup, jeudi 21 octobre, sur la Seine, le fleuve, au Petit Bain.
Au Petit Bain.
Parfait, merci Transcabar.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Et bonjour Mariam Majidi.
Bonjour Emmanuel.
Le croisement des cultures, ça vous parle aussi, les racines?
Beaucoup.
Être fier de ses racines, vous reconnaissez dans ce que dit Transcabar là?
Alors fier de ses racines, oui, mais surtout les accepter, les reconnaître et en faire quelque chose de beau, comme cette musique.
Alors vous avez reçu le prix Goncourt du premier roman en 2017 pour Max et la poupée.
Oui.
Votre deuxième roman vient de sortir, mais on vous a invité pour un petit livre pour la jeunesse qui a attiré notre attention. Mon amie Zara, illustré par la géniale illustratrice belge Claude K. Dubois. Vous racontez l'exil avec une petite fille et surtout beaucoup de simplicité. C'est ça l'essentiel quand on s'adresse aux enfants, Mariam, la simplicité.
Alors c'est surtout ce que j'ai appris en écrivant en fait pour les enfants, c'est-à-dire que le premier livre à l'école des loisirs s'intitulait « Je m'appelle Mariam » et c'est un peu la suite, si vous voulez, du premier, « Mon ami Zara ». Et c'est vraiment l'expérience de la simplicité, je trouve, que d'écrire pour les enfants. Ouais. Ça force à être encore plus simple parce que au départ, moi j'utilisais beaucoup de métaphores abstraites et c'est avec mon éditrice Véronique Hetz qui justement m'a amené aussi à des images peut-être plus concrètes, beaucoup plus simples, pour pouvoir toucher, je dirais, davantage l'imaginaire des enfants.
Alors, vous avez quitté l'Iran, vous, avec vos parents, quand vous aviez 6 ans. Mmh. On peut imaginer d'ailleurs que c'est cette petite fille. Vous avez vécu les angoisses de votre personnage, celle qui fait des cauchemars et qui souffre du manque de sa grand-mère, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle est désorientée, votre petite fille. Vous l'étiez vous-même.
Ah oui, totalement. Tous mes personnages féminins sont mes doubles littéraires. Donc, je fais de l'autofiction, on va dire, pour les enfants. Mais par contre, dans les deux livres, à aucun moment j'ai voulu nommer le pays en question. Donc, on ne sait pas que c'est l'Iran. Je dis là-bas, je dis le pays lointain. Voilà, j'utilise en fait des mots qui permettront ensuite, je pense, à chaque enfant d'identifier, selon son histoire singulière, le pays en question pour lui.
Sauf qu'il y a un dessin avec...
Et voilà, il y a un indice.
Une bulle avec du persan, c'est du persan.
C'est du persan. Ouais. Et en fait, il y a un élément qui permet de pas confondre avec l'arabe, ouais. C'est qu'il y a des lettres qui n'existent que dans ouais. la langue persane. Donc c'est un petit, une petite complicité avec mon lecteur ou ma lectrice qui saura reconnaître la langue. Ouais.
Alors l'exil est une expérience douloureuse, Marianne Majidi, parce que une moitié de soi reste au pays. C'est ce que vous démontrez dans ce livre. Et quand vous avez eu le prix Goncourt du premier roman, votre père vous a dit une phrase qui vous a bouleversé.
Oui, il m'a dit, je lui ai demandé ce que ça lui faisait à lui, hein, que sa fille voilà, ait cette récompense. Et il m'a dit, bah, tu vois maintenant quand je marche dans les rues de Paris, j'ai la tête haute. Ça m'avait... ouais.
Ce qui voulait dire qu'il ne l'avait pas jusque-là.
Qu'il ne l'avait pas, qu'il avait peut-être honte de ses fautes de français quand il parlait, qu'il se sentait pas forcément légitime hein, dans ce pays. Et j'ai trouvé ça à la fois très beau et très triste en même temps. Mais je me suis dit que maintenant, il l'avait, la tête haute, et qu'il était temps.
Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas, ça. Mais il y a chez les exilés forcés cette honte, ou du moins cette gêne, d'être illégitime dans un pays qui n'est pas le sien.
Oui, et c'est ce que j'essaye de raconter dans, que ce soit dans les romans au Nouvel Attila, les romans adultes ou les livres que je fais pour l'école des loisirs. C'est ce que vous aviez dit au début, la fierté, en fait, de dire, mais voilà mon histoire. Mmh. Je viens de là et je suis ici aujourd'hui et je suis tout aussi légitime que n'importe quelle personne qui partage le même sol que moi. Voilà.
Bon, nos libraires suisses et belges ont lu ce livre pour la jeunesse. On commence par qui, Mariam? La Suisse ou la Belgique?
La Belgique. Allez. Puisque Claude Cadubois est belge. Vit à Bruxelles.
Et on la salue au passage. C'est une géniale illustratrice.
Ouais, c'est super.
Elle est magnifique, c'est sublime. Allez, la Belgique avec Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Eh bien, c'est un total ravissement pour moi. Quelle douceur. Alors, tout d'abord, premièrement, dans la thématique. Pour moi, aider un enfant par un livre, eh bien, c'est un grand bravo. Ensuite, quant à l'écriture, votre écriture clarifie les émotions, elle apaise. C'est un petit peu comme du yoga pour les enfants. Et enfin, ce qui fait remporter pour moi la note de 10 sur 10 à ce livre adorable.
Ah oui, 10 sur 10.
Ah, carrément. C'est bien évidemment un dessin aussi fin et doux que le texte. Dessin, bien sûr, de Claude Cadubois, auprès de laquelle je trouve toujours mon bonheur.
Et dont les libraires sont emballés aujourd'hui.
Merci, hein. Merci
c'est rare
beaucoup,
de les voir comme ça, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont un élan de positivité.
Ouais, je suis très touchée.
La Suisse, Yasmina Giaquinto.
Oui, alors moi j'ai un élan qui va ressembler à celui de ma collègue. D'abord j'ai envie de vous dire bravo parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder et à vulgariser pour les petits. Et puis moi ce que j'ai aimé en fait c'est ce rythme que vous avez donné en utilisant des répétitions de mots et de phrases comme un refrain qui permet en fait aux jeunes lecteurs de se sentir aussi piégés dans l'isolement comme Mariam. Et puis bien sûr que les illustrations donnent quelque chose de plus léger, de vaporeux à l'écriture. Merci beaucoup.
Ah merci, Mariam
Majidi. C'est moi qui vous remercie.
Donc ce livre, Mon ami Zara, aux éditions L'École des loisirs. Cette petite fille, elle ira mieux quand ses parents vont accueillir un couple d'Iraniens avec leur fille du même âge. Elle s'appelle Zara, c'est elle, la copine, l'ami Zara. Elle retrouve comme ça les traits physiques de son visage, sa langue maternelle et aussi des références aux souvenirs du pays. Est-ce à dire, Mariam, que les racines nous rattrapent toujours et nous sécurisent?
Oui, oui, totalement. Je pense qu'on en a besoin pour pouvoir avancer dans la vie. Et en fait, toute la souffrance de cette petite fille, c'est qu'elle en est séparée. Tout est lointain, tout est éloigné d'elle. Et donc, c'est ce contact-là qui va l'amener à, en fait, retrouver ce qui lui manquait. Et donc, à réparer, si vous voulez, la douleur de l'absence, voilà, par tout simple, des choses très simples, hein, l'humour, les rires, le jeu, et puis surtout cette petite fille lui ressemble aussi. Oui. Donc en fait, elle se sent aussi moins seule parce qu'elle voit un visage qui est comme le sien, donc avec les cheveux noirs bouclés, des sourcils bien dessinés. Enfin, donc elle s'identifie aussi en elle, et ça devient effectivement un apaisement pour sa souffrance et sa solitude.
Mais quand on ne peut plus retourner dans son pays, on change de vie, on modifie ses racines pour alléger le poids de l'exil alors ?
Je dirais, comme a dit une photographe iranienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Shirin Neshat, elle dit on essaye de reconstituer ailleurs le pays d'exil,
ouais,
le pays
ça.
Dans
ouais,
lequel
ça.
On ne pourra plus y retourner. Mmh. En fait, on le crée ailleurs.
Mmh. JD du groupe Tanskabar. C'est un peu ce que vous avez fait avec la musique, parce que vous avez quitté la Réunion, vous.
Voilà, moi.
Vous habitez en métropole
aujourd'hui. Moi, je suis né ici en France.
Oui, c'est ça.
Mes parents, ils viennent de la Réunion.
Et ils viennent de là-bas. Et du coup, vous avez recréé cet univers.
Donc, ils ont retransplanté ça, cette réunité-là.
En vous.
En moi, et puis voilà, et puis avec à la maison. Ouais. Aussi, voilà.
Bon, il y a une très jolie phrase, Mariam Majidi, à la fin de votre livre. Vous écrivez, elles marchent toutes les deux main dans la main sur le chemin qui va d'ici à là-bas.
Oui, c'est toute la, c'est ce pont entre ici et là-bas. Voilà, le pays où je suis, le pays d'où je viens. Et ce qui fait le pont, bah, moi, je pense, c'est autrui, c'est l'amitié, c'est les relations.
Merci beaucoup, Mariam.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. Mariam Majidi, retenez son nom. Mon ami Zara est paru à l'École des loisirs et votre nouveau roman, le deuxième, Pour que je m'aime encore, est paru aux éditions Le Nouvel Attila. À bientôt, Mariam.
Merci.
On va terminer avec la suite des coups de cœur et des coups de gueule des libraires. Il y en a un qui fait une tête, là. Notre libraire français, Mathieu Colombe, a un gros coup de gueule.
Mais oui.
Sans transition, bien sûr.
Évidemment. Et en fait, je pensais même pas dire ça un jour, mais cette année.
Vous me faites peur.
Bah oui, oui. Mais cette année, pour la rentrée, on est saturé par le désespoir. Il y a du viol, du suicide, de la noirceur à tous les étages. Alors, je suis pas du tout fermé à ces sujets, bien au contraire. Mais au bout d'un moment, ça en devient absurde. Et pour savourer en fait ça, on a besoin, à côté de ça, de livres qui transportent, qui fassent un minimum rêver. Alors, je sais bien que c'est plus dur à écrire, mais cette année, ça manque vraiment.
C'est vrai, c'est un petit peu glauque, comme on dit.
Bah oui.
Bon. Allez, la Belgique avec un coup de cœur moins glauque, peut-être. Nathalie,
oui, tout à fait. Moi, c'est un énorme coup de cœur pour une excellente bande dessinée.
Ah, ça va plaire à Mathieu.
Voilà, quand il s'agit de psychanalyse, d'antiquité, quand il s'agit de l'amour, quand il s'agit de bons dessins, mais j'ai les yeux qui brillent, Emmanuel. Et il y a tout ça dans cette BD intitulée « Lacan au banquet de Platon ». Alors, il y a plusieurs voix. Il y a celle de Lacan qui interprète le banquet lors de son séminaire sur le transfert en 60-61. Il y a celle de différents philosophes, antiques ou contemporains. Et puis, il y a la voix de l'auteur aussi. Mais c'est très clair et pédagogique pour la bonne raison qu'il y a une unique crayon noir expressif, tantôt épais, tantôt précis,
bien,
qui dessine un amphithéâtre avec Lacan au centre, et la pensée est construite progressivement. Le brillant auteur, c'est Patrick Chambon, et c'est une réédition qui vient de sortir aux éditions RS.
Parfait, vous avez tout dit. Merci beaucoup Nathalie, merci Raphaël d'être revenu dans la librairie francophone.
Merci
Transcabar, Mariam également. Avant de conclure, un hommage à un grand artiste corse disparu le week-end dernier, à Corsica Indole, où la Corse est en deuil. Petru Gelfucci a marqué plusieurs générations entières sur l'île de beauté, mais aussi à travers la francophonie, et notamment au Québec, où il sera disque d'or. Il a chanté l'une des plus belles et plus grandes chansons sur la Corse, dont voici un extrait.
Et nous
c'était Petru Gelfucci, chanteur corse, mort le week-end dernier à l'âge de 66 ans. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Vincent Dezière et Benjamin Troncin. À la rédaction, Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, nous serons avec Philippe Djian, entre autres, qui sera sur notre plateau avec aussi quelques surprises. Bon week-end et bonne semaine à tous. À bientôt. Salut.